Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. C'est un roman classé noir. Un roman à suspense, un roman d'aventure, un roman d'amour aussi, peut-être un peu. Et ce n'est rien de tout cela en vérité. En apparence, Julie Manara nous raconte l'histoire d'une journaliste. Mais au-delà, elle nous révèle l'état du monde. Rouge Cendre nous parle de notre temps. Ce n'est sans doute pas par hasard que son héroïne refuse d'entrer dans le monde de la technologie, du virtuel, des réseaux. Manon, journaliste à l'AFP, continue d'écrire et d'envoyer des lettres. J'aimerais vous lire, pour commencer, la façon dont Julie Manara brosse le portrait de notre société des écrans. Elle refusait de lui écrire des mails. Elle disait que c'était la faute de la technologie, de son accélération démente, si on en était là, en enfer. On manipule le temps comme des sorciers sans maître. On écartèle nos corps. On croit les étendre sur le monde. Mais qui verra un jour que la réalité, on l'a réduite à 10 cm sur 7. Il y a 360 degrés de réalité que l'on ne voit plus que sur cette fenêtre de pixels qui n'ouvre sur rien d'autre que le ventre grouillant de verre d'un monde pourri par les animés de chatons et l'ultra-violence que tu combats, Esteban. Manon écrit à Esteban, journaliste lui aussi, mais aussi agent secret, envoyé en mission en Irak. Une occasion pour l'auteur de nous placer au brûlant de l'actualité. Dans les phrases qui suivent, elle tempère la radicalité de son héroïne en soulignant que le net porte le pire autant que le meilleur et que c'est bien par là aussi que passent et se passent les idées porteuses d'espoir. Ce que j'ai apprécié dans ce roman hors norme, c'est le fait que Julie Manara ne s'en tient pas à dénoncer ou pointer du doigt. Elle creuse la réflexion. Voici comment, une centaine de pages plus loin, elle interprète la place de cette fenêtre de pixels que représentent nos écrans dans le fonctionnement de notre pensée. Nous sommes quelques mois après les attentats du Bataclan à Paris. La traque des djihadistes bat son plein. Pourtant, l'état de choc est passé. La tension s'estompe, se décale. Manon, notre héroïne, s'interroge sur la mécanique de notre mémoire. En France, l'idée d'une guerre s'étiolait. L'actualité se chargeait d'autres sujets, le dérèglement climatique ou le championnat du monde de football américain. Oubli, conscience. Oubli, conscience. Allumé, éteint. Allumé, éteint. Il devait être trop tard pour l'espèce humaine qui avait sous-traité son intelligence. Y avait eu cette sorte de foi, infondée, que la conscience, le savoir, était constant. Tous les grands penseurs croyaient cela. Là était l'erreur. Le cerveau est un organe. Il a son propre système de régulation. L'oubli est sa fonction vitale. Et plus la conscience croît, plus la nécessité d'oublier augmente. Je me suis souvent demandé comment l'homme allait évoluer avec cette nouvelle donnée qui est l'accès immédiat et constant à l'information qui lui est proposé grâce à l'Internet. Le fait de ne plus avoir à faire d'efforts de recherche pour trouver une information. Le fait d'accumuler la connaissance sans nul besoin d'exercer sa mémoire. Quelle nouvelle fonction développe notre cerveau ? Notre connaissance de plus en plus étoffée devrait augmenter notre conscience de l'état du monde, n'est-ce pas ? Est-ce le cas ? Comment réagit notre conscience face au matraquage d'informations, vraies ou fausses du reste, que proposent les médias ? Que fait l'homme de cette évolution ? J'ai pris le parti de ne rien dévoiler de l'intrigue de ce roman. L'éditrice Viviane Amy parle de romans d'espionnage envoûtants et même de thrillers palpitants. Il est indéniable que le lecteur se sent emporté dans une irrésistible aventure, tant géographique que psychologique. L'AFP, les services secrets et les missions contre ISIS en Irak, mais aussi les dernières technologies de l'espionnage, les avancées des biologistes dans le cadre de recherches sur le climat. Tout cela propose une première lecture de l'histoire de Julie Manara. Et puis, il y a le reste, hors intrigue. L'idée, par exemple, que Paris n'est qu'un rêve. Paris, c'était une ville imaginaire. On la voyait grande, elle était toute petite. On la voyait noble et lumineuse, elle était arrogante et stérile. C'était la force de l'histoire, la force des clichés qui faisait voir Paris belle. En réalité, depuis le Moyen-Âge, elle n'était qu'un lacis de quartiers aux rues étroites, sous un ciel de cendres. Ce bassin parisien maintenait en permanence des nuages bien sales au-dessus des toits sans grâce, et la Seine serpentait, fleuve boueux et indolent, ne charriant ni beauté ni force. Ce qui avait fait Paris, c'était les hommes résistant à ce quotidien couleur de chrome, réfléchissant et érigeant des citadelles de mots, de savoir et de science, comme un défi à la laideur des jours. D'Abélard à Albert le Grand, de Voltaire à Diderot, de Musset à Baudelaire, Victor Hugo, Zola, Dumas, Proust, Camus. Paris n'était grande que de cela. Sa lumière était humaine, sa taille minuscule. À l'intérieur de la ville, serrés comme des sardines dans leur rame de métro nerveuse, ils étaient méprisants. Il fallait bien trouver un exutoire à ce manque d'espace physique contredit dans l'imaginaire collectif par la supposée grandeur de Paris. La solution était simple. On s'agrandissait à l'intérieur. On était parisien, et cette seule sentence vous valorisait alors, bien qu'écrasée et évoluante d'un espace étroit à un autre espace étroit. Petits apparts, petits bureaux, petits restos, petits jardins, rien n'est grand à Paris. Un rayon de soleil et voilà, pelouse et terrasse bondées par une foule qui compartimente l'espace de façon organique. On était parisien et on jugeait. On jugeait les provinciaux, on jugeait les apparences, on jugeait les autres. Cela rassurait. Parce que toute cette proximité, cette promiscuité était malsaine. Sous le terreau d'un peuple individualiste et idéaliste comme les Français, la chaleur du troupeau ne prenait pas. Chacun était coq, chacun était chef. Il fallait les voir s'agiter dans les files d'attente monstrueuses des grandes expositions. La lutte les prenait comme un frisson. L'indiscipline et l'orgueil, l'impatience et la vanité, rien ne les calmait, ces pauvres Parisiens. Ils étaient leurs propres machines, systèmes valeureux et belliqueux, reliquats d'une histoire géographique, météorologique, dont ils n'avaient gardé que l'étoffe légendaire. Une illusion. En somme.
Panam, on t'a chanté sur tous les tons.
Vous reconnaissez la voix de Léo Ferré? Parmi ces innombrables chansons inspirées de la capitale, il en est une qui s'intitule « Paris, c'est une idée ». Paris, ville imaginaire, reprend en écho Julie Manara. Paris légère, arrogante, moqueuse, séductrice, intellectuelle sans être intelligente, nous dit-elle. Paris, oublieuse. L'auteur évoque le cimetière, ou plutôt le jardin du Père Lachaise, pour aborder encore une fois la question de la mémoire et de l'oubli. Des pages admirables lui sont consacrées. Et pour cause, notre auteur, Julie Manara, est aussi guide à Paris.
La nuit, surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. These mist-covered mountains.
Je cite Paris, et pourtant, ce n'est que très épisodiquement que l'action se situe à Paris. Julie Manara nous immerge aussi en pleine forêt des Balkans, dans un chalet perdu au milieu des loups, qu'étudie un chercheur biologiste. Elle nous entraîne sur les bords de la mer morte, et au tout début du roman, elle se trouve en Italie pour interviewer un repenti de la mafia. Ce livre est un voyage. Esteban, lui, nous charrie au milieu du désert irakien d'Al-Hajara, dans un campement brûlé par le soleil et le vent. J'aimerais vous lire quelques pages qui soulignent encore une fois la façon dont l'auteur nous permet d'aller au-delà des faits, dans une sorte de compréhension seconde des mécanismes proprement humains. Esteban parlait à ses hommes. Il le faisait avec calme et leur expliquait de manière simple des choses compliquées. Il faisait chaud, très chaud. Seul comptait le timbre sobre de sa voix et avec un instinct qui ne devait rien au hasard, les mots qu'il prononçait. Il fallait que les esprits soient bien connectés à l'encéphale, là où l'instinct de survie se loge. Tous avaient chaud et peur. Mais la voix d'Esteban avait quelque chose de concret, de vibrant et de rassurant qui devait les maintenir comme en homéostasie. Du moins certains, car d'autres commençaient à flancher. Si l'index en était sorti, Hans, lui, était mort. Sa dépouille avait été rapportée dans un sale état. Au récit des tortures subies par Hans, tous avaient eu mal dans leur chair. Leur instinct de conservation s'en trouvait sollicité. Les plus solides reprenaient le dessus sur l'effroi et le dégoût et retrouvaient un sentiment de puissance. Ce faisant, ils régulaient le degré de panique ou de self-control des autres. Ainsi, tous se soutenaient. Faire corps était tout ce qui leur restait, et pour beaucoup il n'y avait rien de meilleur. On ne mourra pas tous. Ce sont aussi des hommes de l'autre côté. Ils n'ont pas peur de mourir, mais nous, on a envie de vivre. C'est ça qui nous oppose, vous comprenez? Ils n'ont pas peur de crever, c'est un fait. Mais nous, on a envie de vivre. Il avait haussé sa voix, sans se départir de son calme. On a envie de vivre, même s'il faut se battre pour ça et payer très très cher. Qui gagne sur cette terre? Les affamés de mort ou les vivants? Ils ne sont pas libres, ils sont manipulés, et ce sont des humains. En tant qu'humains, ils jouent en permanence contre eux-mêmes, vous comprenez? Et ils le savent, je vous jure qu'ils le savent. C'est enfoui jusque dans leur moelle épinière. L'information de base, ce n'est pas la mort, les gars. Non, non, l'information de base, c'est survie. Ils perdent un temps fou à contredire cette force primitive. C'est un dur travail qu'ils s'imposent. Nous, elle est lâchée et féroce, notre fin de survie, instinctive. C'est l'avantage qu'on a sur eux. Peut-être le seul, d'accord, mais il est immense. On les aura grâce à ça. Elle est subtile, cette différence entre ne pas avoir peur de mourir et avoir envie de vivre. Une négation, une affirmation, une omission, un élan, un effort, un instinct. Tout est dit par ces deux versants d'une même posture. Posture humaine, trop humaine sans doute. On sent en filigrane au long des pages une attention permanente pour ce qui fait le propre de la condition humaine. Ces réflexions sur la peur de la mort et l'élan de vie font écho à d'autres réflexions situées à des centaines de pages de là, lorsque l'auteur évoque les travaux du biologiste-chercheur perdu dans la forêt des Balkans. Il n'y a pas d'animaux angoissés, s'inquiétant pour leur survie, remarque l'héroïne. La condition humaine est éclairée par l'étude des animaux. Voici. Qu'est-ce la réalité? Ces moments absolus où la mort cesse d'être abstraite et structure les perceptions de l'homme pour les ramener à l'échelle animale. Le cerveau est alors inondé d'hormones très particulières et forme une magie chimique que l'individu qui l'expérimente cherchera toujours à reproduire. Les animaux ne savent pas que leur cerveau est en permanence en état de vigilance. Pour eux, le monde est monde à l'instant où le temps se crée. Ils l'accompagnent de leur marche, silencieux. L'effort de lutte contre la peur de mourir, l'élan irrépressible de vouloir vivre, les perceptions de l'homme ramenées à l'échelle animale, la vigilance. Voilà encore des contradictions toutes en nuances qui nous aident à approcher un peu plus le mystère du fonctionnement humain. Julie Manara semble cristalliser dans ses personnages la somme de ses réflexions sur la complexité de la pensée. Et elle le fait en convoquant des myriades de références. Vous entendez la voix de Leonard Cohen derrière moi? Ce titre est cité par l'héroïne en proie à ses souffrances intérieures. La voix de Leonard Cohen est une râpe pour l'âme, dit-elle. On retrouve dans le roman des références à la Dolce Vita de Fellini, au dernier roman d'Arturo Pérez-Reverte, à Charles Bukowski et ses Contes de la folie ordinaire, à Neil Cassidy de la Beat Generation. L'auteur évoque aussi le très beau poème de Baudelaire intitulé « Le Revenant ». Et puis, Jack London et sa femme, Charmian, leur rêve de maison dans la forêt, l'incendie qui l'a emporté. C'est un roman qui parle de la mort, de la mémoire et de l'oubli. Un roman qui s'en remet à l'impossibilité de s'extraire du monde dans lequel on vit. Manon croit pouvoir s'isoler, revenir à l'essentiel, changer de vie. C'est illusoire. Son passé la rattrape, la rappelle au monde, à la vie. C'est finalement un roman qui nous infuse la vie, son irrépressible mécanique. Qui sommes-nous, si ce n'est de la matière fermentée par le temps? J'ai réussi le tour de force de vous parler de ce roman sans en aborder l'intrigue à proprement parler. J'espère vous avoir donné l'envie de le lire en entier. Je gage que vous le lirez d'une traite. Vous trouverez toutes les références sur la page de notre site consacrée à ce podcast. Tapez tout avec presque rien sur votre moteur de recherche et retrouvez des extraits, des références, des liens et toute la sélection musicale que nous a inspiré ce roman atypique. Merci Julie pour ce voyage littéraire. Merci Marie pour le mixage et les images. À bientôt.